Éclairage.
Une émission de la rédaction de Canal Académie. Édouard Rosset.
Comment va la recherche en sciences humaines et sociales? État des lieux, situation, morale des chercheurs, propositions. En 2003, le ministre de la Recherche, à l'époque Madame Claudie Aigneret, a demandé à l'Académie des sciences morales et politiques de se pencher sur le sujet. Il en est ressorti un rapport piloté par Pierre Bochet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Pierre Bochet qui est l'invité de l'émission Éclairage aujourd'hui. Bonjour monsieur.
Bonjour monsieur.
Votre travail concerne uniquement la seule recherche en sciences humaines et sociale. Pourquoi ce choix très précis ?
Eh bien, mon travail a porté simplement parce qu'on m'avait demandé d'étudier cette question. J'aurais étudié une autre question plus large si on me l'avait posée. Madame Aigneret m'avait donné deux définitions de limite à ma mission. Elle m'avait dit, premièrement, votre sujet, ce sont les sciences humaines et sociales, les SHS. Et d'autre part, je ne vous demande pas de parler de réforme des institutions. Ceci est étudié par ailleurs. Je vous demande simplement de me parler du malaise actuel et des problèmes généraux qui se posent.
On se souvient effectivement de la crise de la recherche et de la mobilisation des chercheurs. C'était au printemps 2004. On a en fait très très peu entendu parler des sciences humaines et sociales au cours de ces débats. Pourquoi ?
Tout à fait. Eh bien parce que c'est un des points... qui d'ailleurs fait problème en France, c'est que du point de vue de la recherche, les sciences humaines et sociales occupent quand même une place relativement seconde par rapport aux sciences dites dures, c'est-à-dire tout le reste, très largement. Et du même coup, les sciences humaines et sociales ne sont pas toujours examinées avec tout le sérieux qu'elles mériteraient de recevoir.
Et pourquoi alors ? Pourquoi c'est quoi ? C'est un manque d'intérêt de la part des pouvoirs publics ? C'est très ancré dans l'histoire depuis longtemps. On s'intéresse plus aux sciences dites dures, mathématiques, physiques, etc., plutôt qu'aux sciences humaines. C'est étrange ?
Oui. Il y a plusieurs raisons à cela. On peut en découvrir énormément. Certains ont cru bon de mentionner une certaine hostilité des responsables scientifiques ou de la science en France, qui sont principalement des scientifiques de sciences dures, en disant méchamment, d'ailleurs il y a eu un article dans Libération cet été qui a confirmé cette thèse, disant « les sciences dures ne comprennent rien aux sciences humaines et de surcroît elles s'y sont hostiles ». Ce n'est pas du tout mon point de vue. Mais c'est incontestablement parce que il y a, si vous voulez, une insuffisance de regard sur les sciences humaines et probablement derrière de compréhension. Les humanités, au sens classique du mot, si vous le voulez, ont reçu certainement plus d'attention que les sciences humaines au sens large, c'est-à-dire les sciences sociales notamment. Et c'est une vieille tradition, je dirais, une vieille tradition dans la recherche française. Je ne crois pas du tout que la raison en soit que les sciences exactes n'ont pas porté toute l'attention que les sciences humaines méritaient, les sciences exactes, dans la mesure où effectivement les représentants de sciences dures ont le plus souvent été en charge de la politique de la recherche, plus incontestablement que des scientifiques de sciences humaines et sociales.
Comment définiriez-vous exactement, comment doit-on définir les sciences humaines aujourd'hui, en ce début 21e siècle ?
Oh, c'est très complexe. Je crois qu'il est impossible de les définir, sinon peut-être par l'originalité ou la spécificité de la recherche en sciences humaines. Je crois qu'il y a un certain nombre de disciplines qui demandent des types de raisonnement qui ne sont pas exactement ceux qui sont employés dans les sciences dures. Non pas qu'on ne peut pas dire que les sciences dures n'utilisent pas l'intuition, par exemple, et que c'est le privilège des sciences humaines. Absolument pas. Dans les sciences dures, l'intuition joue un certain rôle. Mais le mode de raisonnement n'est certainement pas tout à fait le même. Le rôle de l'intuition en sciences humaines est beaucoup plus important, certainement, que dans les sciences dures. Et de ce fait, ceci entraîne un processus de recherche, des structures qui sont relativement originales et qui, là encore, de ce simple fait qu'elles sont originales, qu'elles sont spécifiques, sont trop souvent méconnues.
On reviendra sur ce point particulier, Pierre Bochet, si vous le voulez bien, dans le courant de cette émission, mais l'absence d'une programmation à moyen terme qui permettrait justement de piloter ce secteur de la recherche en sciences humaines, est-ce que cela a toujours été le cas ? Même les diverses réformes intervenues depuis 1958, et je pense notamment à la création du ministère de la Recherche, n'ont pas permis à résoudre ce problème ?
Non. En fait, ceci est un problème alors qui n'est pas du tout spécifique aux sciences humaines. C'est un problème général de la politique de la recherche. Vous avez parfaitement raison de commencer cette audition par ce problème. J'ai moi-même vécu les dernières années du comité interministériel de la recherche et du comité des sages dans les années 1968-1972. À l'époque, il y avait une politique de la recherche pilotée directement, comme l'avait souhaité le général de Gaulle, par le Premier ministre et aussi derrière par la présidence de la République. Une instance était chargée à l'époque de prévoir l'orientation et les crédits de la recherche. Nous avions à l'époque, nous nous réunissions à 12 sages sous la présidence d'un président du comité. J'ai été président du comité pendant 2 ans. Et avec, je dirais, des conversations au niveau du Premier ministre, avec le Premier ministre lui-même, et en suivant des orientations qui étaient données plus spécifiquement au niveau de la présidence de la République. Mais c'était le Premier ministre qui essentiellement suivait directement le problème du contenu de la recherche, de la politique de la recherche et de la programmation de cette recherche pour la période du plan. Il y avait une certaine cohérence, je dis bien une certaine, il ne faut pas exagérer.
Donc là, vous parlez de quelles années précisément ?
La réforme de 58 s'est poursuivie au fond d'une façon intégrale, c'est-à-dire entraînant des comités interministériels pour définir les financements nécessaires, jusque, on peut dire, il a fonctionné un peu plus longtemps dans les années 72-73. À partir de ce moment-là, il y a eu une dégradation incontestable des institutions chargées de faire une politique synthétique et orientée de la recherche.
C'est l'un des points qui ressort effectivement de votre rapport, Pierre Bochet. Alors, ce rapport, concrètement, comment avez-vous travaillé ? Vous avez, je crois, travaillé sur la base d'un questionnaire que vous avez envoyé aux membres de 2 académies, en l'occurrence la vôtre, l'Académie des sciences morales et politiques, celle dont vous êtes membre, et l'Académie des inscriptions et belles-lettres.
Tout à fait. Il se trouve que, d'abord, là, nous revenons aux sciences humaines, n'est-ce pas, pour moi, et sociales, disons. Nous abandonnons le problème de la politique générale de la recherche.
Mais nous y reviendrons.
Madame Aigneret nous avait demandé à l'époque, ou m'avait demandé même à l'époque, d'essayer de préciser de quelle façon l'Académie des sciences morales et politiques envisageait une certaine relance des sciences humaines, spécifiquement. Sans, je le répète, que nous ayons en charge le problème des structures, et notamment de la nouvelle structure du CNRS, etc. Elle m'avait demandé de ne pas examiner cette question, et je comprends parfaitement, parce qu'on ne peut pas tout faire à la fois. Quoi qu'il en soit, l'Académie à ce moment-là, comme rapporteur, si vous voulez, j'ai consulté non seulement les académiciens de notre Académie, mais aussi de l'Académie, de l'Académie parallèle qui s'occupe jusqu'au 18e. Et l'Académie des inscriptions et belles-lettres nous a fourni une aide extrêmement précieuse. Nous avons donc fait un questionnaire en commun qui a été adressé à l'Académie des sciences morales et politiques et à l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Et même, nous l'avons envoyé à une autre institution qui est l'École pratique des hautes études.
Donc, il y avait des questions bien précises sur...
Des questions bien précises. Nous avions un questionnaire extrêmement complet d'une demi-douzaine de questions qui a été envoyé à des personnalités appartenant à ces différentes institutions en leur demandant de nous donner leur point de vue. Nous avions réuni un petit comité relativement étroit, mais représentant un certain nombre de disciplines, qui nous a fourni une réflexion sur l'ensemble des réponses qui étaient apportées.
Alors, que ressort-il, qu'est-il ressorti, Pierre Bochet, de ces questionnaires, principalement 5 points, que nous allons détailler progressivement. Est-ce que l'on peut énumérer ces 5 points ?
Tout à fait. je vais le reprendre, si vous voulez, dans un ordre qui ne sera pas exactement celui auquel on répond les recommandations, mais qui est logiquement le même. Nous avons demandé, tout d'abord, de bien vouloir nous répondre sur la question suivante. Comment distinguer ou séparer les sciences humaines des autres disciplines? Deuxièmement, comment établir des programmes prioritaires pour mieux répondre à la demande de nos sociétés? Troisièmement, préciser l'engagement de l'État dans la recherche, mieux évaluer les institutions de recherche, encore, faciliter la mobilité des personnels, enfin.
Donc c'est une question de forme essentiellement. Alors si l'on passe en revue les différents points, premièrement, distinguer sans séparer les sciences humaines et sociales et les autres disciplines. Alors qu'est-ce que cela veut dire concrètement?
Nous pensons, enfin le groupe a pensé que l'un des problèmes essentiels est la méconnaissance de ce que l'on pourrait appeler la spécificité des disciplines de sciences humaines. Je le répète, je ne crois pas que l'on puisse dire que les sciences humaines se distinguent par une méthodologie totalement différente. Mais il est vrai qu'en sciences humaines, l'intuition a une part exceptionnellement grande dans le raisonnement. Je veux dire par là que, et en conséquence, que la recherche individuelle y occupe une place tout à fait essentielle dans cette recherche. La recherche est moins collective en sciences humaines qu'elle ne l'est dans les sciences dures. C'est incontestable. Voilà une spécificité. Il y en a bien d'autres.
Mais ça impacte quoi concrètement? Qu'est-ce que cela impacte, ce raisonnement? Le fait que cette recherche en sciences humaines soit plus individuelle?
Eh bien, le fait qu'elle conduit à demander aux individus une réflexion personnelle, plus individualisée, et concrètement, que on peut avoir des découvertes ou des recherches tout à fait originales faites par une seule personne. Les grands thèmes de la recherche en sciences humaines ont historiquement été développés par des individualités. Sans doute tout ceci a changé beaucoup au cours du temps. Je veux dire que nous avons aujourd'hui en sciences humaines besoin d'une série d'instruments relativement lourds. Mais l'implication du chercheur dans ces instruments n'est pas collective, elle est très rarement collective, comme peut l'être par exemple celle d'un chercheur du CERN à Genève autour de l'anneau, n'est-ce pas? C'est l'accélérateur. Le problème n'est pas du tout le même.
C'est un travail d'équipe, là.
Oui. C'est pour nous aussi, ceci peut-être. Il n'est jamais totalement individuel. Parce que si nous ne possédons pas des instruments lourds pour faire de l'information, les bibliothèques qui sont une forme d'instrument lourd, effectivement, on ne peut pas avancer. Mais nous ne sommes pas liés à une spécialisation très poussée autour d'un instrument lourd qui ne pourrait pas fonctionner sans nous. Il pourrait fonctionner sans nous. Les bibliothèques peuvent fonctionner en l'absence de tel ou tel chercheur. Mais le chercheur, lui, ne peut pas avancer s'il n'a pas un moyen d'information, un moyen d'archivage lourd à sa disposition.
Vous parliez tout à l'heure, Pierre Bauchet, du malaise des sciences humaines et sociales qui provient d'abord de leur relation ambiguë avec les sciences dites dures. Effectivement, là, c'est la notion de subjectivité des sciences humaines. Scientificité qui paraît douteuse, production illégale, conclusion souvent teintée d'idéologie. Ce qui n'est pas le cas pour les sciences dures, justement.
Ce qui est moins le cas pour les sciences dures. L'un des points de friction, c'était précisément la position des sciences humaines à l'égard des sciences dures, dans lesquelles, assez souvent, vous trouvez des chercheurs de sciences humaines accusant précisément les sciences dures de donner à leur découverte un caractère permanent et définitif. Et effectivement, là, deux thèses s'opposent, au fond. Les sciences dures ont, non sans quelques raisons, l'impression d'avancer de façon certaine sur des terrains qui sont autant d'étapes pour une recherche ultérieure. Nous avons, vis-à-vis des sciences dures, certainement, un sentiment plus nuancé. J'entends par là que, Oui, vous savez qu'en ce moment, on remet en cause, et l'un de nos confrères remet en cause, il n'est pas le seul actuellement, la théorie de la relativité d'Einstein. C'est l'exemple même d'une remise en cause qui, si elle est démontrée, va remettre en cause complètement l'un des points les plus durs des théories de sciences dures modernes.
Pour le coup, c'est une révolution copernicienne.
Ce serait une révolution. Ce serait, on n'en est pas encore là. Tandis que les sciences dures ont, je dirais, une confiance innée, une confiance plus forte dans la pérennité de leurs propres découvertes, incontestablement. Et c'est un des points de friction, mais ce n'est pas un des points majeurs. Un des points majeurs qui nous, je dirais, qui actuellement fait question entre les sciences humaines et SHS et les sciences dures, c'est le fait que il y a objectivement de moins en moins de contacts entre les scientifiques de sciences dures et les scientifiques de sciences humaines. Ceci peut apparaître paradoxal, mais est de la nature des choses. Longtemps, vous le savez, les sciences ont pu progresser de façon parfaitement parallèle, je dirais, à l'intérieur d'une même intelligence, qui à l'époque pouvait, enfin je pense, en reculant longuement dans le temps, et encore pas tellement, jusqu'au XIXe siècle, on peut dire, il a été possible à un scientifique de sciences dures d'être philosophe, à un philosophe d'être scientifique de sciences dures et scientifique de pointe. Actuellement, c'est tout à fait exceptionnel. Pourquoi ? Pour des raisons qui sont des raisons, je dirais, structurelles du développement de nos disciplines, qui se complexifient, qui s'éloignent les unes des autres, il est de plus en plus... Vous vous rappelez probablement que dans les études de doctorat et d'agrégation de sciences humaines, vous avez longtemps l'obligation de préparer un certificat de sciences dites exactes. C'était une obligation. Actuellement, je crois que l'obligation existe toujours, mais elle est un peu théorique. En fait, il y a, vous trouvez très rarement un scientifique de sciences humaines, de SHS, qui est la capacité de faire de la recherche en sciences dites exactes. Tout simplement parce que ces sciences sont tellement avancées que pour beaucoup de sciences humaines, ceci exigerait de refaire tout au long de sa carrière des études de sciences dures très poussées. Il y a peu d'intelligence capable de le faire. Et nous avons donc une diffraction de la recherche entre les différentes disciplines, qui se complexifient et progressent chacune de leur côté. Et c'est un des points les plus graves, c'est que l'interdisciplinarité dans nos disciplines, avec les sciences dures, prend du retard, très clairement. Et ceci, bien sûr, ne simplifie pas la compréhension des unes aux autres.
Nous allons poursuivre notre entretien autour de ce rapport, Pierre Bochet, le rapport que vous avez piloté. Vous avez présidé donc un groupe de travail au titre de l'Académie des sciences morales et politiques. Le rapport sur la recherche et les sciences humaines et sociales. C'est ça c'est sciences humaines et sociales. Non, c'est pas
ça. Oui, SHS.
Oui. Les sciences humaines et sociales, nous poursuivons notre discussion après une première pause.
Canal Académie. Thank you. On retrouve Édouard Rosset.
L'émission Éclairage accueille aujourd'hui sur Canal Académie, la première radio académique francophone, M. Pierre Bauchet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, auteur d'un rapport sur la recherche et les sciences sociales et humaines, les sciences humaines et sociales, dites les SHS. Et puis, on peut retrouver, je le rappelle, les principales conclusions de ce rapport dans le dernier bulletin de l'Association des anciens et des amis du CNRS. C'est un numéro hors série du mois d'octobre 2004 intitulé « La mémoire du CNRS » avec les réponses notamment à l'enquête qui a été menée auprès des membres de l'Académie des sciences morales et politiques et l'Académie des inscriptions et belles-lettres. Alors, premier point, premier des cinq points qui ressort principalement de ce rapport, Monsieur Bauchet, nous le disions, c'est-à-dire un appel à une distinction, mais sans séparer les sciences humaines et sociales des autres disciplines. Il faut dire effectivement que le problème se pose peut-être également en termes de formation, non, différence des rythmes de formation et d'élaboration des travaux, élaboration des programmes universitaires calqués sur les sciences dures, ça ne peut pas fonctionner finalement. Ce n'est pas du tout le même rythme de travail, qu'on soit en sciences humaines ou en sciences dures.
Vous avez raison d'insister sur les problèmes de formation. Là encore, il fut un temps, je le répète, où un certain nombre de scientifiques menaient des études parallèlement dans les deux domaines. Ce n'est plus possible. Et d'autre part, il a été à la mode, et il reste encore à la mode, de décider des diplômes de sciences humaine suivant des étapes, d'une part, et d'autre part, non pas des contenus, mais des durées de ces étapes parallèles dans les deux disciplines. L'un des exemples qui a été le plus frappant, c'est quand on a voulu réduire la thèse de lettres à 4 ans maximum, alors qu'il était de coutume de la faire en 6 ou 8 ans. Je ne discute pas le problème de savoir si il n'eût pas été mieux que les thèses de lettres soient un peu plus courtes qu'elles étaient, mais imposer un oukase de durée le même dans toutes les disciplines suppose bien entendu une incompréhension assez totale des unes par rapport aux autres. Il y a eu bien d'autres exemples de définition commune du cadre, disons, de l'enseignement et dans ces disciplines. Et je pense que là, il y a eu un certain dérapage des sciences exactes à l'égard des sciences dites exactes ou des sciences dures à l'égard des processus de formation en sciences humaines. Un autre exemple, par exemple, je comprends bien qu'en sciences dures, on puisse faire une table rase du passé. On ne peut pas, en sciences humaines, en faire table rase. Notamment en ce qui concerne les instruments. L'un des problèmes des sciences humaines aujourd'hui, c'est la fin du latin et du grec dans l'enseignement secondaire, un certain mépris dans lequel ils sont tenus, alors que de nombreuses disciplines des sciences humaines ne peuvent se développer sans une connaissance, sinon parfaite, tout au moins étendue, de ces langues anciennes qui sont le fondement même de notre recherche et la base de notre civilisation.
Cela dit, Pierre Bauchet, les deux sciences, donc humaines et dures, ne peuvent-elles pas finalement se compléter à un certain moment? Je pense notamment à la dimension éthique, économique et sociale à prendre en compte dans des débats comme ceux autour des médicaments, des OGM, de l'atome. Là, quand même, les deux, la dure, je dirais, la science dure et la science humaine, se rejoignent quelque part, finalement.
Elles se rejoignent à condition qu'il y ait des formations mixtes. C'est-à-dire que ce soit qu'il y ait vraiment une concertation continue au moment de l'élaboration des découvertes. Or, l'expérience prouve que dans nos sociétés aujourd'hui, la concertation avec les sciences humaines sur les problèmes éthiques ne se fait pas dans toutes les disciplines dures. Sans doute se fait-elle, et elle progresse de nos jours en biologie, par exemple. Là, il y a tout de même, et dans les sciences de médicaments, de soins, dans tout ce qui concerne les soins, on a une concertation par le biais souvent de relations politiques ou d'analyses politico-religieuses qui conduisent tout naturellement à un contact. Mais il faut bien voir que pour le moment, la mixité de la recherche proprement dite, le dialogue interdisciplinaire, est encore relativement exceptionnel dans de très nombreuses disciplines où vous avez un progrès des sciences humaines d'un côté social et de l'autre côté un progrès des disciplines de sciences dures que les chercheurs en sciences humaines ont beaucoup de peine à suivre dans leur développement et dans leur contenu.
Alors on en arrive au deuxième point qui ressort de votre rapport, je rappelle, un rapport commandé par le ministre, Madame le ministre de la Recherche à l'époque, Claudie Agnoret, c'était en 2003, vous avez travaillé sur ses recommandations, sur la mission qu'elle vous a confiée, un questionnaire a été envoyé aux membres de plusieurs académies et donc cinq points ressortent essentiellement de ce rapport, Pierre Bochet. Le deuxième point, eh bien, c'est établir des programmes prioritaires pour mieux répondre à la demande de la société, justement. Alors la recherche en sciences humaines et sociale répond-elle toujours aux besoins de la société ?
Non, tout à fait non. Ma réponse est très claire. La société moderne a besoin d'énormément de recherches en sciences humaines et il suffit de voir le catalogue des recherches pour savoir que, sur de nombreux points, elle ne répond pas aux besoins. Alors je ne sais pas il ne faudrait pas faire porter toute la responsabilité sur les chercheurs de sciences humaines dans la mesure où il y a la limite des crédits, du temps des personnels et ainsi de suite. Mais je crois que ni le pouvoir politique, très largement en Europe, plus qu'aux États-Unis, ni les milieux de la recherche même n'ont pas toujours pris conscience de l'étendue des lacunes de la recherche en sciences humaines. Je pense par exemple aux problèmes que posent les relations internationales. Nous savons, avec les problèmes que nous avons au Moyen-Orient, la nécessité absolue de développer une recherche dans les lieux de conflit pour éviter, dans la solution de ces conflits, de faire des politiques inadaptées à ces milieux.
C'est de l'analyse géopolitique.
De l'analyse géopolitique. Bon, nous en faisons. Il y a chez nous des gens qui en font, et sérieusement. Mais elle est relativement peu étendue. Nous pouvons dire d'une façon très large, et le cas type est le cas type de l'Afrique, nous avons peu de recherches en sciences humaines, peu par rapport aux besoins de recherches en sciences humaines concernant plus largement les problèmes du sous-développement. Nous sommes dans ce domaine, je dirais, non pas en retard, mais insuffisant en quantité de recherche. Et ceci nuit à notre diplomatie, nuit à nos relations commerciales, dans la mesure où nous avons à entretenir des rapports avec des pays dont nous n'avons pas suffisamment travaillé les racines culturelles et les besoins actuels.
C'est-à-dire mieux connaître, en quelque sorte, notre zone d'influence dans le monde.
Tout à fait. C'est d'autant plus regrettable que nous avons quand même, dans ces zones d'influence, des pays de langue française.
Oui. La francophonie.
La francophonie, qui représente quand même un capital extraordinaire et sur lequel nous ne faisons pas assez de recherches.
Donc, deuxième point de ce rapport, effectivement, établir des programmes prioritaires qui détermineraient les endroits où la recherche pêche. Et là, il y a plusieurs axes de réflexion, oui. Car le pouvoir exécutif doit pouvoir en profiter, lui aussi, faire appel aux sciences humaines pour éclairer ses choix. Idem pour le pouvoir législatif, par exemple le débat sur la laïcité en France. Il y a la sociologie juridique, la recherche pour la connaissance des phénomènes sociaux. Ça, c'est important, même pour le pouvoir politique aujourd'hui.
C'est important pour le pouvoir politique depuis fort longtemps, mais plus que jamais.
Oui.
Effectivement,
le monde bouge.
Vous avez parlé des problèmes de la laïcité. J'avais été frappé aux États-Unis, que l'on critique suffisamment pour que je n'ai pas besoin d'y ajouter les miennes. Mais ce qui est très frappant, c'est que les commissions de recherche constituées au sein même du Congrès représentent plusieurs centaines de personnes les mieux qualifiées qui poursuivent continuellement des recherches sur des points d'actualité. À ma connaissance, le pouvoir législatif n'a pas en France de commission de recherche proprement dite. En souhaitant même qu'il ait des bibliothèques bien constituées, c'est totalement insuffisant, en supposant que. Autrement dit, nous sommes très en arrière de la main. Et jusqu'alors, je ne suis pas sûr que nos représentants dans les chambres aient le souci de commanditer des recherches sur les problèmes d'actualité sur lesquels ils prennent des décisions.
Mais quid de l'utilisation des moyens mis à la disposition dans les centres de recherche français à l'étranger? Ils sont là pour la recherche, notamment la recherche en sciences humaines. Il y en a 20 à travers le monde, je crois, hein, ces centres de recherche français à l'étranger.
Mais ces centres de recherche français à l'étranger sont, et ce n'est pas inutile, loin de là, orientés vers le problème d'archéologie, d'histoire, mais pratiquement pas sur les problèmes économiques, sur les problèmes juridiques de telle ou telle partie du monde. Et ils sont, d'ailleurs, il faut bien le dire, très faibles. Ces centres de recherche ont très peu de moyens. Ce qui est un signe des temps également, c'est qu'on ne s'intéresse pas à l'analyse politico-économique, sociologique des pays avec lesquels nous travaillons.
Donc c'est l'un des points qui ressort de votre rapport, Pierre Bauchet, c'est-à-dire renforcer, réactiver en quelque sorte l'activité sciences humaines et sociales de ces centres de recherche français à l'étranger.
Tout à fait. Ils le sont, Dieu merci, dans des disciplines fort précieuses, mais sur les disciplines d'actualité, d'analyse actuelle, on peut dire que leurs moyens sont négligeable, pour employer un terme peut-être un peu abusif, mais c'est de cet ordre. Quand on constitue des équipes de recherche à l'étranger, il faut les constituer avec des moyens, des hommes, etc. Et je ne connais pas que ces centres aient partout des économistes, des juristes, des sociologues.
C'est une volonté politique, quand même.
De le faire.
Enfin, ça devrait être
mais
ce n'est
pas,
politique.
Ça devrait être une volonté politique. Actuellement, ce n'est pas une volonté politique de ne plus en avoir. Il y a une espèce de tradition qui veut qu'on n'en fasse pas dans ces domaines de recherche.
Une nouvelle pause, Pierre Bauchet, dans cette émission Éclairage, avant de poursuivre notre conversation autour de ce rapport, la recherche et les sciences humaines et sociales, les fameuses SHS, pour lesquelles vous avez publié un rapport au titre de l'Académie des sciences morales et politiques, un rapport qui sera d'ailleurs très prochainement publié. Nous en avertirons nos auditeurs. À tout de suite.
Vous écoutez Canal Académie.
Comment va la recherche en sciences humaines et sociales, état des lieux, situation, morale des chercheurs, propositions. Je rappelle qu'en 2003, le ministre de la Recherche, à l'époque Madame Claudie Agnuret, avait demandé à l'Académie des sciences morales et politiques de se pencher sur le sujet. Il en est donc ressorti ce rapport, piloté par Pierre Bochet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques. Pierre Bochet qui est l'invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie aujourd'hui. Alors, Monsieur Bochet, 5 points, nous le voyons depuis le début de cette émission, 5 points ressortent essentiellement de ce rapport, ce sont des recommandations et parmi ces recommandations, il y a le fait de préciser l'engagement de l'État dans la recherche des sciences humaines. Il ressort de ce rapport effectivement que la capacité de l'État à orienter la recherche est aujourd'hui strictement limitée.
En fait, ce qui est tout à fait intéressant, c'est de voir qu'au congrès de Grenoble, au congrès des chercheurs, il y a la semaine dernière très exactement, ce point a été très... on a insisté énormément sur ce point. Le ministre lui-même, M. Fillon, a insisté sur la nécessité d'avoir une instance auprès du Premier ministre, sinon du président de la République, pour définir un cadre d'ensemble des recherches, faire des prévisions à la fois de crédit et dans le cadre d'un plan général de développement de la recherche, avec des objectifs bien définis. C'est un des points sur lesquels nous avions nous-mêmes insisté dans le rapport dont on vous a parlé. Je crois qu'effectivement, on ne peut pas dire que le ministère de la Recherche ait jusqu'alors permis de reconstituer, en quelque sorte, l'unité de la politique de recherche que le général de Gaulle avait voulu en 1958. Cette unité n'existe pas.
C'est-à-dire que les procédures interministérielles d'orientation mises en place en 1958 se sont dégradées, on peut
dire
clairement.
Elles se sont dégradées au cours du temps. Elles n'ont pas été reconstituées par le ministère de la Recherche. Chaque organisme de recherche a encore sa tutelle indépendante. Et de ce fait, il n'y a pas vraiment d'objectif. Et d'autre part, il faut bien dire que même s'il y avait des objectifs, on n'a pas les instruments pour réaliser au cours du temps une continuité. Je crois qu'il ne faut pas se faire d'illusions sur ce point. Nous sommes maintenant à l'intérieur de l'Europe. Je ne vois pas très bien comment nous pourrions envisager, d'autant que le ministère des Finances y a toujours été hostile, que nous ayons des échéanciers de paiement sur 5 ou 10 ans. C'est impensable à l'intérieur d'un ensemble européen qui nous impose, d'ailleurs je m'en réjouis, un certain nombre de contraintes. Autrement dit, ce qu'on peut espérer, mais cela on peut l'espérer, c'est qu'on se donne des objectifs constants, même si on ne peut pas se donner des perspectives de moyens très précis sur cette période de 5 ans. Mais les objectifs seraient à définir et seraient, je dirais, à donner aux différents organismes d'une façon unitaire. Ce n'est pas le cas aujourd'hui.
En fait, vous en appelez à la création pure et simple d'une structure de réflexion et de décision interministérielle qui serait placée auprès du Premier ministre.
Tout à fait. Ou du président de la République. Je crois qu'il faut que ce soit une instance vraiment au sommet de la recherche. Une instance constituée dans un des ministères ira toujours à l'échec, ne serait-ce que parce qu'elle n'a pas la possibilité d'orienter les politiques des finances. Chacun sait que les finances ont une capacité de servir la nation, mais aussi de nuire aux objectifs définis par d'autres ministères, qui est incommensurable, sans critique. Mais il est bien nécessaire, si on veut une politique de la recherche, il faut qu'elle soit faite au niveau du Premier ministre.
Une volonté, c'est ce que l'on disait tout à l'heure, véritable volonté politique.
Tout à fait.
Pierre Bochet, comment cela se passe-t-il à l'étranger? Est-ce qu'on peut aller chercher à l'étranger des exemples? Si oui, dans quel pays, principalement? Est-ce qu'il y a un ou deux pays qui vous viennent à l'esprit?
Je ne suis pas sûr qu'on puisse aller chercher des exemples à l'étranger. Là où, effectivement, il y a des politiques de recherche très cohérentes, c'est dans les pays où la défense nationale a une importance considérable. Je pense aux États-Unis.
Nous sommes dans la recherche traditionnelle. On n'est pas dans la recherche en sciences humaines et sociales. Nous sommes bien d'accord.
Dans l'ensemble de la recherche. Parce que même en France, le ministère des Armées fait poursuivre certaines recherches en sciences humaines qui ne sont pas négligeables. Je crois que nous avons là un schéma de la recherche en France qui est assez faux. Nous identifions en France la recherche avec le budget civil de la recherche. Je ne suis pas sûr que ce soit encore le cas. Je ne veux pas dire que la Défense nationale fait beaucoup de recherches en sciences humaines, mais les recherches en sciences humaines sont poursuivies dans des cadres extrêmement divers. Une firme comme IBM, par exemple, fait des recherches en sciences humaines en France. Autrement dit, on n'en tient pas compte. D'autre part, dans un domaine comme par exemple...
Ça ne sert, pardonnez-moi, ça ne sert que l'entreprise IBM.
Non, parce qu'il y a des chercheurs du CNRS et d'ailleurs qui travaillent dans un certain nombre, je ne sais pas, il y en avait dans le temps chez IBM, du temps où j'étais aux affaires, comme on dit, mais aujourd'hui, je ne sais pas, ça se poursuit à la gaude et ça avait été extrêmement précieux pour tout le monde. Mais il existe des entreprises qui font appel à des chercheurs dont certains travaillent en sciences humaines. Très peu, trop peu, mais ceci existe. Je citais les armées. Une recherche en sciences humaines, une recherche qui est très négligée, c'est celle à laquelle se consacrent les grands corps. Il ne faut pas oublier que la Cour des comptes publie tous les ans un rapport sur un certain nombre de thèmes. Je dois dire que le rapport qu'a fait la Cour des comptes sur la recherche et sur l'enseignement supérieur, et en 1907, ce rapport public 2003, ce rapport est tout à fait remarquable. Vous me direz, c'est pas de la recherche, c'est du constat de ce qui est fait. Mais ces rapports sont totalement ignorés, vous ne le connaissez pas.
Le traditionnel rapport annuel de la Cour des comptes, ça tout le monde, je crois, le connaît, mais spécifiquement
ne le
sur
pas.
Le... Non, voilà. Dire que c'est une somme assez importante. Les médias s'en font l'écho, mais c'est vrai que souvent on s'attache à des épiphénomènes, un pont qui arrive sur un mur, etc.
Je prends cet exemple un peu paradoxal, puisque c'est un corps de contrôle financier, mais il n'en reste pas moins que de multiples travaux sont faits dans des cadres très différents, et en fait... Il n'y a pas d'organisme permettant de présenter un développement synthétique des recherches qui sont faites. Ce n'est pas dire qu'elles sont suffisantes, bien évidemment.
Pierre Bochet, il y a les solutions, et votre rapport en émet, selon 5 grandes directions dont nous discutons actuellement dans cette émission Éclairage sur Canal Académie. Il y a les propositions, mais il y a aussi peut-être l'évaluation. Est-ce qu'il ne faut pas, quelque part, évaluer les institutions d'enseignement de recherche.
Voilà.
Partir d'un constat et dire, voilà, ça pêche à ce niveau-là, mais partir vraiment de concret, d'une évaluation de ces institutions.
Tout à fait. Je suis assez frappé que l'évaluation des institutions de recherche en France est faite curieusement. Je ne vais pas dire qu'elle n'est pas faite, mais elle est faite de façon qui me paraît relativement inefficace. Quand je parle d'évaluation des institutions, c'est-à-dire, au fond, confronter les dépenses et ce qui est fait de ces dépenses.
Le retour sur investissement.
Le retour sur investissement. En fait, nous avons en France simplement, dans le domaine de la recherche, un organisme qui est le Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel, le CNE.
Ah ben, il vaut mieux le dire en toutes lettres, effectivement.
Qui est un comité qui avait été créé, je crois, dans les années 84 pour mener c'est une autorité administrative indépendante, munie d'un budget propre et relativement, semble-t-il, libre de ses décisions. Malheureusement, les espoirs qu'ont donné la création de cette institution ont été très déçus. Et je ne peux suivre là que la conclusion qu'on tire justement dans son rapport 2003 à la Cour des comptes. Le moins qu'on puisse dire est que l'ensemble des enquêtes faites et des évaluations n'a pas conduit à une optique générale cohérente. Il n'a pas conduit surtout à des réformes, si bien qu'on en est resté à quelques constats réellement intéressants sur de toutes petites structures, largement inintéressants sur les grandes structures. Autrement dit, nous n'avons pas en France actuellement une évaluation globale de ces institutions faite sérieusement. Et c'est infiniment dommage. Pourquoi ? Eh bien d'abord, pour des raisons, j'ai pris la comparaison et j'avais fait l'étude avec, je m'occupe un peu des hôpitaux, avec l'ANAES, qui est l'instance d'accréditation et d'évaluation des institutions de santé, qui est une institution qui n'a pas le statut d'autorité indépendante, mais qui fait un peu ce travail, et qui, alors elle, est un réel succès. L'ANAES a réussi en quelques années à entraîner une évaluation, notamment des hôpitaux, centres de santé et autres, extrêmement positif pour deux raisons fondamentales. La première, c'est que l'ANAES a mêlé à l'évaluation non seulement tous les personnels, mais y compris bien entendu les personnels enseignants, mais également, elle a mêlé les utilisateurs. C'est-à-dire que l'ensemble des utilisateurs de santé, si vous voulez, de la clientèle, le jugement de la clientèle, a été examiné avec un soin très précis et de façon continue au cours des années. Les évaluations des années, j'en ai suivi une de très près, sont tout à fait remarquables. Et les conclusions auxquelles elles ont conduit, en cours d'année, ont conduit à des réformes des établissements qui étaient examinés. Ce qui est absolument inexistant dans l'enseignement supérieur, par exemple. Totalement inexistant. Ceci pour dire que on pourrait, en France, si on avait des institutions cohérentes, avec représentation des utilisateurs de ces, et notamment les étudiants, que je trouve, ce n'est pas du tout pour faire la panacée des syndicats étudiants, mais je dis, on ne mêle pas assez les étudiants au processus de l'enseignement et de jugement sur l'enseignement. On ne donne pas les moyens non plus de faire une véritable évaluation. On ne donne pas non plus les moyens et l'autorité nécessaires pour que les personnels soient mêlés à l'ensemble des opérations de jugement sur les institutions.
De la réflexion en règle générale.
De la réflexion.
Je vous demandais tout à l'heure, Pierre Bochet, si l'on pouvait aller chercher des exemples à l'étranger. Oui. Là, en termes d'évaluation, on peut citer précisément la Grande-Bretagne. Une réforme récente initiée par Tony Blair, le Premier ministre, insiste justement sur l'importance de la gouvernance des universités. Oui. La Grande-Bretagne a pris conscience de ce problème.
Oui. Je n'ai pas employé ce terme parce que j'ai horreur de ce terme. On met n'importe quoi.
La gouvernance.
Je ne sais pas ce que ça veut dire. Mais il ne fait aucun doute qu'ils ont fait une série d'analyses. Alors là, je crois que ce sont les pouvoirs publics qui l'ont conduit. Mais dans les pays anglo-saxons et en Allemagne, vous avez surtout des procédures d'analyse qui ont toujours existé et qui continuent à exister à travers des fondations qui ont pour mission, précisément, de faire des enquêtes qui sont payées pour cela. Et qui font des enquêtes. Il y en a la Suisse, une institution qui fait ça, moyennant paiement, dans une série d'institutions à l'étranger. Ce qui permet d'avoir une vue indépendante, un œil étranger, ce qui est fondamental, alors que là encore, notre système pêche horriblement. L'œil étranger sur nos institutions, bon, ça existe de temps en temps, mais ce n'est pas courant, ce n'est pas fait, de même que la présence, je l'ai dit, du personnel et des étudiants, mais alors institutionnalisée, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas de mettre le bazar dans l'université, mais vraiment de faire ça de façon très cohérente sous des autorités qui est une autorité, plus que les autorités universitaires n'en ont actuellement, et le ministère sur les universités elles-mêmes. Autrement dit, on a l'impression que cette espèce de paralysie de l'évaluation de l'université n'est qu'un des signes de la faiblesse de ce que vous avez appelé la gouvernance des universités elles-mêmes. Et là encore, le colloque de Grenoble a laissé percer des voies de bon sens. Je ne sais pas ce qu'il en suivra, mais disant il faut revoir tout ça parce qu'on ne fera rien si on ne revoit pas tout ça, et je le crois profondément. Mais le résultat, c'est que faute d'évaluation, il ne fait pas de doute que l'évaluation des institutions, qui n'est pas l'évaluation des chercheurs, on pourrait y revenir ultérieurement, mais l'évaluation des institutions est horriblement défaillante en France. Il n'y a pas de réforme continue des institutions à partir d'un examen de leur fonctionnement continu et à partir d'un référentiel chiffré, précis, permettant vraiment de tirer des conclusions.
Nous marquons une dernière pause, Monsieur Bochet, dans cette émission Éclairage sur Canal Académie, la première radio académique francophone. Nous nous retrouvons dans un instant.
Canal Académie.
Bonjour, c'est Christa Leuc. Retrouvons-nous tous les jours au Carrefour des Arts sur Canal Académie. Les expositions en Europe, en France et dans le monde, l'art plastique, les concerts. Quel que soit le pays d'où vous nous écoutez, il se passe toujours quelque chose. Invitation à sortir, découvrir, apprécier, humer l'air du temps artistique. Parce que les artistes n'ont pas de frontières, rendez-vous au Carrefour des Arts. Votre agenda culturel sur Canal Académie.
Toutes les générations se retrouvent sur Radio Canal Académie. Parce que l'histoire est un éternel recommencement, chaque génération enrichit son présent et son futur. Académiciens et élèves de grandes écoles se retrouvent quotidiennement autour du micro de Radio-Canal Académie pour échanger leur point de vue sur un thème choisi. Un thème, un académicien, des élèves, plusieurs générations se rencontrent, toutes se retrouvent. Écoutez-les.
On retrouve Édouard Rosset.
C'est Monsieur Pierre Bauchet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, qui est l'invité de l'émission Éclairage sur Canal Académie. Aujourd'hui, nous parlons de la recherche et les sciences humaines et sociales, un rapport qu'a piloté Monsieur Bauchet au titre de l'Académie des sciences morales et politiques et qui sera bientôt publié. Eh bien, de ce rapport ressort cinq recommandations. Tout d'abord, distinguer sans séparer les sciences humaines et les autres disciplines, établir des programmes prioritaires pour mieux répondre à la demande de nos sociétés, préciser l'engagement de l'État dans la recherche, mieux évaluer les institutions de recherche, nous venons d'en parler, Monsieur Bauchet, à travers l'évaluation des institutions. Et vous disiez justement que, bon, c'est vrai, l'évaluation des institutions, c'est une chose, mais l'évaluation des chercheurs en est une autre.
Oui, cette évaluation, elle a toujours donné lieu à des débats homériques. Sur cette évaluation, moi, j'ai fait partie pendant 7 ans de la direction du CNRS. J'ai ensuite suivi une commission, la commission économique. Des évaluations, nous en avons fait. Je suis pas sûr que ça ait toujours très bien fonctionné. Je pense qu'il y a quand même des institutions qui ont fonctionné plus mal que le CNRS, pour être très clair. Et donc, je ne m'amuserai pas à faire des critiques oiseuses sur cette institution pour laquelle j'ai conservé un certain bon souvenir, malgré les difficultés. Je pense que c'est une institution vivante et qui a le mérite, précisément, de ne pas séparer les sciences humaines du reste.
Alors, comment évaluer les chercheurs ?
Comment évaluer les chercheurs ? Alors, ne pas séparer, je pense que ne pas évaluer les chercheurs, au CNRS, vous savez, ça se fait dans des commissions. Ces commissions sont, comme l'a souligné M. Laroutourou, le directeur général, à plus de 50% composées de représentants des chercheurs eux-mêmes, ce qui n'est pas normal. Et c'est vrai. On ne peut pas s'évaluer soi-même avec une objectivité suffisante. On peut le faire. Il est indispensable d'être présenté. Mais il est aussi indispensable que des yeux extérieurs, c'est-à-dire non seulement extérieurs à l'institution, mais extérieurs au pays, étrangers, portent même un jugement sur les chercheurs comme sur l'institution. Sur les deux, il est nécessaire que les recrutements et les promotions fassent appel à des jugements internationaux et extérieurs. Au moins partiellement. Je ne suis pas du tout pour l'élimination.
Donc une commission internationale d'évaluation.
Il faudrait une commission. Je crois que pour les chercheurs, il faudrait mettre... Non, là, il s'agirait de mettre dans les commissions obligatoirement un certain nombre de représentants de chercheurs étrangers.
Alors, un chercheur, c'est un membre d'une institution, autrement dit du personnel. Et là, nous en venons au cinquième et dernier point de votre rapport, Pierre Bauchet, c'est faciliter la mobilité du personnel. L'objectif des réformes du statut, dites-vous, des personnels de recherche après 1968, était de conforter leur emploi pour faciliter la mobilité. Or, cet objectif n'a pas du tout été atteint.
C'est absolument évident. Bon, je n'irai pas jusqu'à généraliser cette observation. J'ai quitté depuis un bon moment la direction du CNRS. Peut-être les choses ont-elles évolué. Mais là où j'ai pu les suivre, ce qui m'a beaucoup frappé, c'est qu'on avait dit, il suffit de donner un statut stable, comme un statut de fonctionnaire, aux chercheurs, au moyen d'un minimum d'ancienneté, et de ce fait, portant son statut dans son dos pour aller dans une autre institution, le chercheur bougera beaucoup plus, notamment vers l'enseignement supérieur. Rien n'est moins vrai. C'est-à-dire que l'on n'a pas réussi par ce moyen. Je ne veux pas dire que le statut n'ait pas quelques effets bénéficiaires, mais je dis la mobilité n'a pas dépendu de la généralisation du statut dans les milieux de la recherche. Objectivement, c'est vrai. Bon, alors il faudrait partir là avec plus de détails de quelle mobilité on parle.
Mais c'est quoi, oui, concrètement, là ? Qu'est-ce que c'est cette mobilité ?
C'est la mobilité, c'est la possibilité pour un chercheur d'aller travailler dans l'industrie, même s'il n'emmène pas dans son dos un statut de retour, n'est-ce pas ? C'est là, vous avez de jeunes chercheurs dont il serait essentiel qu'ils passent, même au moment où ils sont sans statut en début de recherche, qu'ils aillent voir un peu ce qui se passe dans les industries, quitte à ce qu'ils reviennent après. Et réciproquement, des chercheurs industriels auraient tout intérêt à passer un certain temps dans les cadres du CNRS. Ça existe, mais à titre je ne dirais pas infinitésimal, c'est exagéré, mais cosmétique, comme disent les anglo-saxons, n'est-ce pas ? On ne va pas très loin. Autrement dit, c'est totalement insuffisant. De même que vis-à-vis de l'administration, il y a très peu de chercheurs allant dans l'administration. Et enfin, c'est peut-être l'aspect le plus critiquable, il y a très peu de chercheurs qui rejoignent l'université, même temporairement, surtout dans les premières années d'université, où on manque horriblement de gens ayant une très grande compétence. En réalité, dans les universités, dans les premières années, on met un peu les bisous, enseignants, ceux qui n'ont pas de statut, les trois quarts du temps, et on ne met dans des DESS spécialisés, les DEA spécialisés, des chercheurs chevronnés. Or, précisément, ces chercheurs chevronnés auraient un rôle fondamental à jouer sur les débuts de l'éducation.
Donc, associer davantage enseignement et recherche, et puis renforcer les liens, créer des passerelles entre CNRS, universités, grandes écoles et entreprises. Oui. Ça, c'est un point capital. Et c'est, on dit toujours qu'on réserve le meilleur pour la fin. C'est les recommandations que vous faites dans le dernier, l'ultime point de votre rapport. C'est le plus important, selon vous.
En ayant sur ce point l'impression de répéter pour la énième fois la même chose, ça fait presque un demi-siècle que j'entends dire, et je suis un peu désolé de voir que cette mobilité tant attendue, tant espérée, et qui, je le répète, était très attendue du statut des chercheurs, n'a pas jusqu'alors abouti. Elle est très faible, beaucoup trop faible. Beaucoup trop faible.
Merci infiniment, Pierre Bochet, pour ces explications. Je renvoie donc à la lecture de ce rapport que vous avez concocté et chouchouté, et bientôt que vous publierez donc au titre de l'Académie.
Intégralement, qui n'est pas publié intégralement pour le moment.
Bien sûr, mais il le sera très très bientôt, et nous en avertirons les auditeurs et auditrices de Canal Académie. Rapport sur les relations entre recherche et sciences humaines et sociales. On peut en découvrir déjà quand même les grandes lignes à travers le bulletin de l'Association des anciens et des amis du CNRS. Est un numéro hors série intitulé « La mémoire du CNRS ». Il s'agit du numéro d'octobre 2004. Monsieur Pierre Bochet, membre de l'Académie des sciences morales et politiques, je vous remercie infiniment et je vous dis à très bientôt sur cette
antenne. Je vous
Vous écoutez Canal Académie, la suite de votre programme dans un instant.